Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Laura Besson pour parler de syndrome du sauveur et de ces jeux de rôle psychologiques que l'on vit tous au quotidien, notamment dans les milieux de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement et du bien-être. Alors aujourd'hui, Laura, elle nous dévoile tous les rouages de ces jeux psychologiques qui se jouent en nous et chez nos clients, souvent très inconsciemment. J'espère donc que cet épisode t'aidera, te permettra de dézoomer sur ce qui se passe en toi, te permettra également peut-être d'accompagner avec un peu plus de sérénité et d'outils les personnes qui viennent à toi. Et juste avant de te laisser pour notre belle conversation, je t'invite évidemment à la partager autour de toi, à parler du podcast, à envoyer le lien, à nous laisser un petit message également sur Instagram, ça nous fera chaud au cœur avec Laura. Tu auras évidemment tous les liens pour nous retrouver toutes les deux dans les notes de cet épisode juste en dessous. J'ai déjà hâte d'avoir ton retour sur tout ça. Et puis sur ce, je te laisse pour notre belle conversation. Bonjour Laura, bienvenue sur le podcast. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu veux bien te présenter avec l'étiquette générale qui est facile à comprendre, ouais. Et puis aussi peut-être en nous partageant ce que tu as osé de plus grand, ce que tu es le plus fier d'avoir réalisé dans ta vie.
Ah oui, toi t'attaques. Question de psychanalyse d'entrée. Ok, alors me présenter, ça je peux. Je m'appelle Laura, je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte. Donc sûrement l'étiquette la plus englobante, c'est entrepreneur, entrepreneuse. Et puis pour en dire un petit peu plus quand même, mon travail au quotidien effectivement c'est de gérer entre guillemets bien dans ta boîte avec deux branches, une branche d'accompagnement pour les entrepreneurs notamment sur les enjeux émotionnels et relationnels, ça c'est ma première casquette de coach praticienne notamment en approche systémique. La deuxième branche de bien dans ta boîte c'est la branche de formation, plutôt pour les professionnels de l'accompagnement, les coachs, les thérapeutes, etc. aux enjeux grosso modo de posture, d'accompagnement. Donc ça, c'est ma deuxième casquette de formatrice. Et puis la troisième casquette, c'est la casquette d'autrice avec mon livre qui est sorti début février. Donc voilà, ça c'est pour la présentation. Et après, c'était le truc le plus grand que j'ai fait dans ma vie, c'est ça ?
Ouais. Qu'es-tu la plus fière ? Alors, le plus grand pour toi, pas selon les standards de la société, hein, mais le plus grand pour toi, ce que t'es le plus fière d'avoir osé ?
Le parcours thérapeutique. C'est tout le travail en thérapie depuis des années où je ne cesse de me dire Dieu que c'est pénible, mais Dieu que j'ai bien fait de le faire.
Ouais. Et Dieu que c'est bon aussi de sentir le courage en soi de le faire, de la libération, des prises de conscience, des je suis une humaine et de l'amour aussi que ça apporte. Même quand on voit des parts de soi qu'on aimerait ne pas voir, c'est aussi, je trouve, une forme d'amour qu'on s'apporte.
Ouais, clairement. Donc voilà, je dirais ça, je pourrais dire ma boîte, je pourrais dire l'adoption de mon chien aussi, hein. Il y en aurait d'autres, mais allez, pour aujourd'hui, on choisit celui-là.
Ça me va très bien. Et du coup, est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de faire des études de psycho ? Parce que oui, je spoil, je connais la vie de Laura, du coup forcément, je passe par un peu des chemins de traverse. Mais ouais, je sais que tu as fait quelques années de psycho, est-ce que c'est ça aussi qui t'a motivée ? Ou est-ce que inversement, tes années psycho t'ont rendu encore plus amoureuse de ce parcours thérapeutique ?
Il y a sûrement un peu des deux, effectivement. Je pense que c'est rarement anodin quand tu fais des études de santé, d'une manière générale, avec un S majuscule. Je pense que ça vient quand même parler de quelque chose dans le parcours de vie et dans la manière dont on peut se représenter le réel. Et le non-réel, d'ailleurs, soit dit en passant. Et effectivement, le fait de faire ces études-là et puis d'en avoir fait mon travail m'a encore plus, effectivement, rendu nécessaire le travail thérapeutique. Je dirais nécessaire au sens philosophique de la chose, quoi. C'est-à-dire que ça s'imposait un petit peu. Et après, je suis arrivée en psycho, certainement pour beaucoup de choses inconscientes. Une partie sur laquelle j'ai mis du conscient maintenant, une partie sur laquelle, justement, j'ai pas encore 100% mis du conscient sur tout. Mais le cheminement conscient à l'époque, c'était plutôt, parce que moi, j'ai commencé par médecine, et donc ça a été plutôt de quitter médecine, qui du coup m'ont proposé de partir directement en bio, à la fac de bio. Et donc le cheminement conscient, c'était plutôt de dire, je me reconnais pas dans ces études de santé, trop physiologique, trop biologique, bien d'accord sur ce qu'était la maladie, pas du tout d'accord sur ce qu'était la santé, c'est pas ma vision de la santé, je veux pas faire ça. Ils m'ont dit, ok, bah écoutez, au vu de vos notes, vous pouvez partir directement en bio, etc., sans refaire, première année, machin. À l'époque, j'avais 20 ans, je pensais que je gagnais du temps. Bullshit de, de la jeunesse. Et en fait, je suis arrivée en fac de bio et je me suis dit, bon, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Moi, je veux faire travailler avec des humains, quoi. Donc, c'est comme ça que j'ai atterri à la fac de psycho, qui m'a pas, faut être honnête, 100% comblée hein, sur cette question-là, mais qui m'a comblée sur d'autres choses. Et donc, après, je les ai quittées aussi, mais ça, c'était les raisons conscientes et sûrement pour plein d'autres raisons inconscientes. Je suis arrivée en psycho. Ouais.
Et qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui dans ta pratique de ces années de psycho ?
Plein de choses, parce que la posture, beaucoup, parce que quand même des années de fac, en l'occurrence, il n'y avait pas que psycho, mais enfin bon, des années de fac, ça te forge quand même le cerveau, tu vois. Alors, je ne dis pas que ça le forge bien, mais ça le forge d'une certaine manière qui est tout à fait critiquable et qui est nécessaire, à mon avis, de critiquer, de flexibiliser, de remettre en question. Mais enfin, en attendant, ça donne un cadre, ça donne une façon de penser, une manière de réfléchir, parce qu'on avait le temps, tu vois. Moi, je me rappelle à fin de la troisième année psy, où tu repasses des concepts d'empathie, de neutralité bienveillante, et tu te dis, mais il y en a ras-le-bol, ça fait 3 ans qu'on nous parle de ça, qu'est-ce qu'ils ont bien à nous raconter de plus que sur ces sujets-là, tu vois. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mon Dieu, ils avaient raison, quoi. Ils avaient raison parce que pendant des années, même s'ils rabâchaient et qu'ils rabâchaient les mêmes choses, parce qu'au bout d'un moment, l'empathie, si tu veux, tu l'as vu pendant 3 ans, t'as pas grand-chose de plus à dire. Théoriquement,
elle n'a pas changé.
Ouais, voilà, c'est ça. Le concept n'a pas changé. Théoriquement, il n'y avait rien de plus à dire. Mais quand même, tu vois, ça forgeait quelque chose et on avait le temps. Tu vois, parce qu'on y restait quand même longtemps dans ces facs-là. Donc, on avait le temps de mûrir les sujets, d'échanger avec des collègues, d'échanger avec des professeurs, d'échanger avec les maîtres de stage. Après, tu avais le temps de voir passer des patients. Et on avait le temps. C'était pas des formations. J'ai rien contre ça, parce que moi-même, je propose des formations plutôt courtes. Mais c'était pas des formations en 3 mois, en 6 mois ou en 1 an. Tu vois, j'y suis restée des années et des années. Donc, j'en garde surtout tout ce truc-là. La solidité théorique, bien sûr. Mais ça, c'est parce que moi, je suis un peu une obsessionnelle. Alors, j'aime bien... bachoter et la théorie et les concepts et machin. Et je pense que pour beaucoup d'universitaires, ça reste quand même ce truc, les définitions, les fiches Bristol, les stabilos, et ça, je crois que ça reste un petit peu. Donc, je garde la solidité théorique, la perception du temps long. Je pense qu'on n'est pas des bons praticiens dans le temps court. Et je garde la posture, les échanges et la réflexion. Quand on fait des sciences humaines, ça, pas que. Mais en l'occurrence, quand on fait des sciences humaines, ça me paraît assez indispensable.
Qu'est-ce que tu entends par l'importance du temps long pour toi, en tant que praticien, en tant qu'accompagnant, en tant que n'importe qui travaille, on va dire, avec l'humain ou qui est au contact d'humain au quotidien? C'est quoi cette clé du temps long?
L'importance du temps long, c'est que... je vais vous prendre une anecdote, excusez-moi, de la fac... fin de troisième année, je ne sais plus quand, on s'en fiche un petit peu. Le directeur de master, Marc Gandhi, de son nom, s'il y en a qui le connaissent.
Dédicace à Marc.
Voilà. On veut que s'en rappeler, là, docteur Gandhi, tu vois ça sur ton programme de cours, bon, tu t'en rappelles, quoi. Psychologie du travail, en l'occurrence, bref, on s'en fiche. Un jour, il s'énerve en amphi. Clap ses cahiers là, il claque son cahier sur son bureau en bas de l'amphi et il nous dit, il était en colère pour une histoire de sélection, d'administratif de la fac, et puis il nous dit, de toute façon la vérité c'est que vous avez 21 ans, 22 ans, 23 ans et qu'on n'est pas psy quand on a 23 ans, allez vivre l'amour, le désamour, l'honneur, le déshonneur, revenez dans 10 ans et peut-être dans 10 ans vous serez des psys un peu moins médiocres. Et je trouvais qu'il y avait, il nous avait quand même interpellé, en plus il était fâché, mais il y avait vraiment une sagesse là-dedans, c'est que je suis pas en train de dire que les bons praticiens sont forcément des vieux praticiens, parce que tu peux être un vieux praticien à con qui s'est pas remis en question, qui s'est enfermé dans ses dogmes et tout. C'est pas ce que je dis. Hein. Mais je dis que y a une question de faire l'expérience phénoménologique du réel, du travail thérapeutique, de l'expérience, qui fait que ça prend du temps d'être praticien. Non, t'es pas praticien en 6 mois, c'est pas vrai. Ça prend du temps, et outre évidemment d'accumuler de l'expérience, c'est pas juste d'accumuler de l'expérience, c'est accumuler l'expérience de soi, c'est accumuler l'expérience de la transmission psychique inconsciente aussi, c'est accumuler l'expérience de la sensation, de l'intuition, des choses qu'on sent, qu'on ressent. Il y a des choses qui sont difficiles à...
C'est avoir, ouais, pendant toute l'année vécu des choses expérimentées, ressenties, pris du recul, accompagné, ouais, et avoir été accompagné soi-même. Et puis, ouais, je pense qu'effectivement, c'est dans la matière qu'on a, et pas dans les bouquins. Enfin, les bouquins sont essentiels, mais le step d'après, c'est la matière et ensuite la transmission ou la mise en application pour autrui.
Mmh. Oui, je suis d'accord.
Génial. Tu parlais de posture aussi. Je sais que c'est un de tes grands dadas, de posture d'accompagnant, de posture de coach, de thérapeute, peu importe. Juste avant, peut-être que tu nous expliques ce que c'est pour toi et peut-être quelques clés d'une bonne posture d'accompagnant. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un psy, un coach, un mentor, un thérapeute, un accompagnant X ou Y ? Parce que je pense que c'est pas clair pour tout le monde et c'est vraiment important.
Oui, c'est clair. Alors, en fait, il faudrait déjà faire deux grandes catégories sur ces sujets-là. C'est la catégorie des psys et la catégorie des accompagnants, praticiens, etc., dans lesquels tu vas retrouver effectivement les coachs, les mentors, les consultants. Mais chez les psys, déjà, psy, ça veut tout rien dire. Parce que déjà, chez les psys, vous avez les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychoprates, etc., etc. Donc, on va peut-être pas tous les passer, parce qu'il faudrait peut-être un podcast entier pour tout passer. Mais on va faire les grandes différences. Allez, prenons psychiatre, psychologue, coach, consultant, et puis mentor, par exemple, t'avais dit ça. Ça fera déjà une bonne idée, je pense. Les psychiatres sont médecins, donc c'est un parcours qui passe par la fac de médecine, sont médecins. En l'occurrence, spécialisés en 6e année aux ECN de la filière psychiatrie. Donc leur travail, c'est, et je précise, c'est les seuls à pouvoir le faire. Le diagnostic précise, pour celles et ceux qui nous écoutent et que je vois sur Instagram s'appeler coach en burn-out ou je ne sais quoi, vous n'avez absolument pas le droit. C'est un diagnostic, il est donc réservé à l'usage médical. Et donc, ce sont les médecins qui s'en occupent. En l'occurrence, médecin généraliste, hein, pourquoi pas, ou en l'occurrence, le psychiatre. Donc voilà, le psychiatre, il est médecin, son travail, c'est un travail de diagnostic, c'est un travail éventuellement de prescription médicamenteuse.
C'est aussi lui qui peut faire les ordonnances d'anxiolytiques, d'antidépresseurs et compagnie, c'est ça ?
Exactement. Et éventuellement, de thérapie, s'ils sont... il y a beaucoup de psychiatres qui ont passé, par exemple, des DU, des diplômes universitaires en psychothérapie, etc. Le psychologue, lui ou la psychologue, il sort de la fac de psycho, c'est-à-dire une licence, un master, 500 heures de stage validé, une validation de titre qui lui donne le titre de psychologue, qui est donc un titre protégé, bien entendu. Et donc lui, il fait tout le travail. Généralement, les psychologues, on voit un peu mieux, hein, c'est le travail de l'accompagnement thérapeutique, de psychothérapie. Les coachs, c'est un titre qui n'est pas protégé, donc tout le monde peut le revendiquer, l'utiliser, etc. Les coachs, a priori, ça vient plutôt de coacher et donc de l'accompagner d'un point A à un point B. Donc, a priori, la posture de coach n'est pas une posture de conseil, c'est une posture vraiment d'accompagnement au sens littéral, c'est-à-dire aller vers ensemble. Et donc, alors évidemment, coach, ça peut être des coachs pro, des coachs dev perso, enfin, il y a beaucoup de monde là-dedans, mais voilà. Donc, le travail du coach, c'est un travail d'accompagnant au sens littéral, c'est-à-dire toi, tu décides où tu es, où tu vas. Mon travail de coach, c'est, au vu de mes outils et mes méthodes, trouvons le chemin le plus optimal pour aller de ton point A à ton point B. Donc, on n'est pas dans une posture de conseil. On n'est pas dans une... Alors, évidemment, certainement pas dans une posture diagnostique, évidemment. On n'est pas dans une prise en charge des psychopathologies qui relèvent du travail des psychologues ou des psychiatres. Les consultants-consultantes, là, on est pour le coup dans une posture de conseil, c'est-à-dire que là, on fait référence à des experts et des expertes de leur thématique, de leur sujet. Consultante Instagram, consultante finance, que sais-je. Et donc, eux, ils sont là pour t'accompagner sur la problématique XY qui est la tienne, très souvent dans une posture de conseil, pour le coup, en élaborant avec toi des stratégies, des audits, des bilans, et de trouver une solution au problème qui est le tien. Les mentors, alors le travail de mentor, c'est un peu un espèce de mix entre coach et consultant, finalement, parce que souvent, les mentors, ils ont une posture d'accompagnement de leur mentoré, ça comme ça, mais ils peuvent quand même donner des conseils, voilà, ils sont plus dans une posture, quelque part, entre guillemets, un peu fraternelle, c'est-à-dire, voilà, moi, j'ai accumulé de l'expérience, des connaissances, et j'ai monté un groupe ou en individuel, et puis je t'accompagne vers les objectifs que sont les tiens, mais il y a une démarche quand même de compagnonnage, voilà, on pourrait dire ça comme ça.
Ouais, d'accompagnement. Est-ce que pour toi, c'est juste de dire qu'un psy va plus travailler sur le passé et un coach, un mentor ou un consultant va travailler sur le futur, sur l'avenir, sur bâtir?
Alors, oui, non. Disons, effectivement, c'est souvent la distinction qu'on donne pour faire simple et être compréhensible. Souvent, on dit la thérapie, c'est pourquoi, le coaching, c'est comment, la thérapie, c'est le passé, le coaching, c'est demain. Je ne le résumerai pas comme ça. Y a un peu de ça, mais il faut plutôt l'entendre. Enfin, c'est compliqué parce que, si vous voulez, la psycho est une science qui est très, très jeune, en fait, il faut être honnête. Hein. C'est une science qui a 250 ans, universitairement parlant, je veux dire. Et donc, la vérité, c'est qu'on est à peu près tous d'accord sur rien. Donc, en fait, il y a beaucoup de courants en psycho. Et donc, en fait, ne serait-ce que chez nos confrères et consoeurs psychologues, en fait, psychologue, sous-entendu clinicien, parce que déjà, chez les psychologues, tu as des psychologues du travail, des psychologues cliniciens, des psychologues sociaux, etc. Chez les cliniciens, entre un clinicien psychanalytique freudien et un clinicien de la TCC, t'as un monde quand même, quoi, tu vois. Donc, en fait,
ils avaient des visions de la vie et de la psychologie différentes, c'est bien ça?
Ouais, c'est que... Ouais, t'as des présupposés à la psycho, effectivement, qui sont différents. On part pas des mêmes présupposés sur l'humain. Et donc, pas les mêmes méthodes, pas les mêmes outils, pas les mêmes analyses, pas... Voilà. Et donc... Ça serait un peu plus complexe que de vous dire ça, parce que, par exemple, si vous allez voir un psychologue TCCiste, c'est-à-dire des thérapies cognitivo-comportementales, qui est vraiment un puriste de la TCC, il ne devrait pas vous faire parler 48 ans de votre enfance, hein. Et pourtant, il est psy.
Ouais, j'allais dire, papa, maman, on les oublie.
Ouais, de manière un peu cliché, si tu tombes sur un puriste, oui, lui, il va dire, ok, il y a un symptôme, je sais pas moi, d'anxiété, de phobie, etc. Son prisme, vraiment, si t'es face à un puriste, c'est de dire, ok, il y a un symptôme, qu'est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ce truc-là qui emmerde la vie de mon patient, tu vois.
Oui, là où effectivement... Ouais, c'est quoi tes habitudes, tes expériences, qu'est-ce que tu fais, tes pensées, et c'est sur le présent qu'on travaille pour l'avenir quand même.
Là où, de manière cliché, tu vas chez un psychanalyste freudien puriste, lui, effectivement, ce symptôme-là, ce qui va l'intéresser, c'est d'où sort ce truc, qu'est-ce qui a créé les causes et conditions, c'est quoi la symbolique, qu'est-ce qui échappe au vécu conscient de mon patient pour que le corps psychique manifeste ce symptôme-là. Tu vois. Donc, ça sera plus une... Et vous avez plein de coachs qui ont des approches... par exemple, c'est notre cas en systémique. Quand tu as une approche de la systémique, en fait, tu passes quand même par l'enfance, puisque tu passes par le système familial. Donc, je crois que... Oui, il y a un peu de ça, pour répondre à ta question. Et puis, il y a surtout la question des orientations, des référentiels et des outils, quoi.
Ouais, génial. Merci de le dire, parce que... C'est vrai que bon, ça permet de globalement comprendre la différence psy et coach ou mentor, mais ça va pas assez loin. Enfin, je sais que moi, pour énormément de personnes, selon la personne, ce que je ressens, je vais aussi utiliser des outils peut-être de vision, d'approche différentes et hyper souvent, en fait, on va effectivement parler du passé, de l'enfance, de schémas qui se sont construits, de croyances qu'ils ont aussi intégrées, sans pour autant me prétendre psy. Que nenni, mais parce que ça aide aussi pour comprendre le présent et bâtir l'avenir. Donc c'est important de s'autoriser, je pense, en tant qu'accompagnant, à faire des ponts, à faire des liens et à pas juste rester focalisé sur ce qu'on m'a appris à la fac, en formation, dans le programme X ou Y que j'ai fait, mais garder les yeux ouverts et l'esprit ouvert aussi pour accompagner au mieux les personnes qui sont devant nous et qui chacun dans son individualité vont être plus ou moins réceptifs aussi à telle ou telle approche.
Oui, alors effectivement, mais par exemple chez les psys, vous en avez beaucoup qui sont ce qu'on appelle des intégratifs, hein, c'est-à-dire qui intègres différents outils, différentes méthodes, différents courants, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. Là où il faut bien rester vigilant, attentif, précautionneux, prudent, méfiant même, je vais utiliser le mot, c'est notamment si vous allez gratter sur l'enfance, le passé, etc. Vous ne savez pas ce qui peut ressortir de ça. Et donc, évidemment, le truc que j'aurais à dire, c'est soyez formés. Faites pas n'importe quoi avec la santé mentale des gens, même quand on est coach, même quand on est consultant, même quand on est mentor. Si vous pète un trauma à la gueule, il faut savoir quand même le gérer avant de pouvoir le réorienter, bien sûr, à vos confrères et consoeurs psychologues, hein, mais vous n'allez pas réorienter dans la vie.
Tu peux pas le dire, appelle bidule, voilà. Et dégage.
Exactement.
Ouais. Et c'est lourd à porter, tant pour la personne d'aller secouer quelque chose qui n'était pas prêt forcément à revivre, mais aussi pour soi. Je sais que moi, psychologiquement, si je vois quelqu'un mal en face de moi, que je ne sais pas réagir, je vais très mal le vivre pendant des jours et des jours. Donc, tant pour l'autre que pour soi, c'est hyper important de se former là où on va gratter, et sinon, le laisser à ceux qui sont formés, justement, quitte à, évidemment, rebasculer vers un professionnel formé, adapté aux besoins de la personne. Et parfois, ça oblige à, entre guillemets, perdre un client, perdre un contrat, dire « non, je ne suis pas la bonne personne ». Mais je crois que par éthique, ça me paraît juste évident d'avoir, que ce soit la première question à se poser quand quelqu'un vient vers nous, de « est-ce que j'ai les épaules, les connaissances, les compétences pour accompagner cette personne ?»
Ah bah c'est clair, hein, si vous n'avez pas ça, changez de métier. Hein. Oui, non, pardon, hein, je suis cash, hein, mais en fait, effectivement, si vous n'avez pas sincèrement la préoccupation du bien-être des gens qui sont en face, il ne faut pas être accompagnant. Hein. Vous changez de métier.
Et en même temps, est-ce que tu ne crois pas que certains peuvent être biaisés par leur envie d'aider, soit par ce qu'on va appeler le syndrome du sauveur, soit par une sorte de mégalomanie de « je peux sauver la planète, j'ai plein d'outils, j'ai fait plein de formations, j'ai 3 milliards de diplômes, moi je gère ». Tu vois, est-ce que
bien sûr.
Tu as déjà vu ça ou ça peut arriver ?
Oui, bien sûr. D'autant plus ces dernières années où être coach accompagnant, c'est assez à la mode. On en voit beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de réorientation vers ça, etc. Donc, effectivement, il peut y avoir l'effet de mode. Il peut y avoir ce côté, effectivement, un peu position de sauveur. Je vais sauver l'humanité. Les gens ont besoin de moi. Il y a une grande confusion. Grande confusion qui est « non mais je fais un bilan de compétences, etc. Je pense que je vais me réorienter là-dedans parce que tout le monde me dit que je sais bien écouter, que je suis toujours celle qu'on vient chercher quand on a besoin d'écoute. » Mais t'es toujours celle qu'on vient chercher déjà parce que t'es une femme, déjà, petit 1. Et t'es toujours celle qu'on vient chercher parce que peut-être effectivement t'as une position de sauveur. Et qu'en fait, la position de sauveur, c'est une position qui recevra toute la semaine des messages. Merci pour ta patience, merci pour ta bienveillance, merci pour ta compréhension, merci pour ton soutien, merci pour ton écoute, merci, merci, merci. C'est normal, c'est une position de sauveur. Pour autant, être l'ami qui écoute, c'est pas être le praticien ou la praticienne qui travaille, c'est autre chose. Donc oui, évidemment, mais bon, j'ai envie de dire, des gens qui font ce métier pour des, entre guillemets, mauvaises raisons, j'imagine que c'est le cas dans tous les métiers. J'imagine. Bon, il a la particularité, comme tous les métiers liés aux autres, que si tu le fais pour les mauvaises raisons, ça n'implique pas que toi. C'est plutôt ça le problème. Parce que j'imagine que si tu fais mécanicien auto pour des mauvaises raisons, c'est peut-être très enquiquinant, mais ça a peut-être moins de répercussions d'un point de vue santé mentale, quoi. Là, évidemment, c'est enquiquinant. Donc oui, il peut y avoir les positions de sauveur, bien entendu, ça c'est récurrent. Le côté effet de mode. Les questions un peu mégalomaniaques, etc. Oui, ça peut arriver. Moi, je ne les ai pas trop. Je pense que c'est pas vraiment ma cible. Moi, j'ai beaucoup de positions de sauveur plutôt.
Pardon, je te coupe, mais parce que en t'écoutant, je me dis aussi, est-ce que les deux peuvent être liés, tu vois ? La position de sauveur qui rend mégalo, parce que toute la journée, on reçoit des merci, parce que ça nous donne l'impression d'être vivant, d'exister, d'être important, et que du coup, on se forge l'idée de je dois et je veux sauver le monde.
Ah oui, c'est possible. Oui. Chez les positions de sauveur, en fait, alors disons, pour répondre clairement, a priori, non. Ça ne devrait pas faire ça, a priori. Parce que la position du sauveur, c'est une position qui est intrinsèquement liée à des questions d'endettement dans le système familial. En français, ça veut dire, c'est un gamin qui part du principe qu'il a commis une faute et qui doit racheter cette faute-là. Donc, a priori, les positions de sauveur, vous allez plutôt les retrouver bourrées de culpabilité que dans des accès un peu mégalomaniaques. Ceci dit, ça peut se voir aussi dans des effets un peu de surcompensation, tu vois, c'est-à-dire, en fait, je me sens pas à la hauteur, je me sens, comme tu disais, pas importante, je me sens insignifiante, je me sens inexistante, etc. Toutes ces constructions du monde-là. Et donc, peut-être qu'au lieu de rester sur ce pôle-là du continuum, je suis allée surinvestir l'autre extrême du continuum en disant je me sens hyper importante, hyper signifiante, machin. On est dans la même dialectique, ça s'appelle juste faire du même à l'envers en psychosystémique, mais effectivement, ça pourrait donner un peu des effets surcompensatoires qui vont donner une espèce de truc, ouais, un peu, alors qui serait effectivement pas mégalomaniaque techniquement parlant, mais très surcompensé, un peu surjoué, etc. Après, tu peux voir aussi, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat, t'en as beaucoup, des structures de personnalité qui sont pas des névrotiques, hein, si tu veux, pour être clair. Hein. Donc, du coup, bah, effectivement, tu vas retrouver chez eux, position de sauveur ou pas, les accès de la structure de personnalité peut-être un peu plus état limite, quoi. Un peu plus mégalo.
La névrose, si j'essaye juste de traduire, la névrose, c'est un peu ce qu'on peut tous avoir, le truc un peu banal, on a tous des névroses, et l'étape d'après, là, ça devient dangereux. C'est ça ? Enfin, dangereux. Voilà, peut-être à traiter et à se méfier. Alors, aussi partout.
Le sujet des structures de personnalité, aussi passionnant soit-il, est complexe parce que déjà, il n'est pas reconnu par tous les psys. Donc, quand on est okay. Dans le vocabulaire des structures de personnalité, on est plutôt dans le vocabulaire des confrères et consoeurs de la psychodynamique. C'est grosso modo de la psychanalyse, pour faire très simple, pour résumer vulgairement. Dans ce courant-là, je vais faire très simple, on ne va pas faire tout un cours de psycho. Freud, il avait différencié la structure névrotique de la structure psychotique. Pour faire très simple, la structure névrotique, c'est la majorité d'entre vous qui nous écoutez. C'est mon cas, c'est sûrement le tien. C'est des humains névrosés, névrotiques, c'est-à-dire tenus par ce qu'il appelle des angoisses de castration. Le mot fait très peur. En français, ça veut dire « tu es tenu par la culpabilité ». Voilà. Si tu roules pas à 140 sur la route, c'est parce que tu es tenu par l'angoisse de la castration, c'est-à-dire l'angoisse que la vie te retourne le truc sur la tronche et que tu te payes un accident ou que tu te fasses niquer ton permis par les flics, quoi. Tu vois. Voilà. Ça, c'est l'angoisse de castration. C'est les emmerdes que nous avons tous en tant que névrotiques. J'ai peur d'avoir blessé. J'ai peur de me prendre un retour de bâton de la vie, etc., etc. La psychose, on va passer plus rapidement, la structure psychotique, c'est la structure qui vit une altération du réel, c'est-à-dire concrètement, c'est ce qu'on pourrait appeler des fous, entre très gros guillemets, mais pour que les gens comprennent. C'est-à-dire que vous avez là-dedans tous les enjeux vraiment des délires, des hallucinations, d'une forme de déconnexion du réel. Et après, il y a la troisième structure qui met à peu près personne d'accord, qui est la fameuse structure état limite, borderline, on retrouve ce terme-là, perversion chez les lacaniens. Bon, qui est la structure, moi j'aime bien dire état limite parce qu'état limite, ça porte très bien son nom, qui est l'état limite névrotique, limite psychotique, noyau psychotique, nimbé d'une enveloppe névrotique. En français, ça veut dire ça a l'air normal.
Mais
ça n'est pas tant que ça. J'avais un prof en psycho, il disait « c'est le papier peint qui tient les murs ». J'adore cette expression. « C'est le papier peint qui tient les murs, ça a l'air normal, mais il ne faut pas que ça tremble trop, qu'il y ait un peu de vent dehors, parce qu'il y a tout qui fout le camp ». Alors, la structure est à limite, elle est assez difficile à résumer, parce qu'il faudrait prendre beaucoup de pincettes, parce que tout le monde n'est pas d'accord, etc. Donc, je vais la résumer vulgairement. S'il y a des psys qui nous écoutent, vous me pardonnerez le raccourci. La structure est à limite, c'est ce que vous allez retrouver dans une forme d'instabilité comportementale, instabilité émotionnelle, espèce de réactivité constante à tout qu'on peut retrouver très souvent dans des conduites addictives. C'est une structure qui a un lien complexe à la question des limites, par définition. Et donc, quand vous êtes professionnel de l'accompagnement, ça ne va pas forcément être très simple à gérer, puisqu'ils vont régulièrement faire péter les limites et faire péter le cadre. Et vous allez très souvent, si on reprend du vocabulaire un peu freudien, comme la personnalité morcelée qui a du clivage, ben vous allez retrouver dans une partie de la personnalité, ce côté de la toute-puissance infantile qui effectivement les rend parfois très, voilà, pas mégalomaniaque, mais il peut y avoir de ça. Très, je suis le centre du monde, tout tourne autour de moi. Et c'est une structure qui
est manipulateur, non ? Il y a un côté où, vu qu'ils sont entre les deux, on se méfie pas au début, on peut pas trop le sentir. En même temps, parfois, il y a des accès de quoi sais-je. Et après, ils reviennent, entre guillemets, à la normale. Donc, c'est, je trouve très compliqué aussi à gérer et de ne pas se laisser, d'autant plus si on a le fameux syndrome du sauveur, à se laisser, entre guillemets, berner par ce type de personnalité.
Oui, alors, oui, tu as raison de parler de la question manipulatoire. Alors, là encore, tout le monde, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Sur, est-ce qu'il y a une structure perverse? Est-ce que c'est la même? Est-ce que la perversion, c'est le continuum le plus grave des états limites? Est-ce que c'est deux structures différentes? Bon, voilà. Donc, je précise le contexte. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais effectivement, quand vous faites face à quelqu'un qui relève de la perversion ou qui a quelque chose qui tient de la perversion, c'est plus complexe que ce qu'on pourrait en dire, voilà, retenez la fonction utilitaire, c'est-à-dire vous n'êtes, pour la personne en face, qu'un objet. Parce que c'est une structure qui repose sur ce qu'on appelle le clivage de l'objet, c'est-à-dire je tronque la réalité en deux, je la coupe en deux, toi, t'es un objet pour moi sur lequel je peux projeter tout ce que je ne supporte pas en moi, tout est projeté sur ta tronche tout le temps, quoi. Et donc là, effectivement, chez les états limites, vous allez retrouver des mouvements manipulatoires qui ne sont pas toujours très conscients. Dans la perversion, vous retrouverez des mouvements manipulatoires qui sont très, très conscients.
Et comment, est-ce que tu as des conseils pour un accompagnant qui, on va estimer, a une sorte de syndrome du sauveur où c'est encore plus dur, je pense, en tout cas, c'est ce que je vois, moi, chez mes clients, de poser les limites, de dire non, de dire stop, de dire maintenant on arrête et c'est hors de question en fait de subir ça. Est-ce que tu as des conseils pour justement, une fois quand on sent, on va estimer que la personne sent qu'il y a un truc malsain, qui est pas clair, qui se joue et qu'il a pas envie forcément de continuer par exemple l'accompagnement, est-ce que tu as des clés comme ça pour briser, enfin casser une relation sans pour autant se briser soi et avoir des problèmes, on va dire, avec autrui.
Ouais, alors, il y a deux sujets dans ta question. Le premier sujet, c'est effectivement, tu en as parlé, position de sauveur, avec la question des limites. Alors, ce n'est pas l'exclusivité de la position du sauveur, c'est que par définition, si vous jouez des jeux psychologiques du triangle de Cartman, en tout cas, si on utilise ce vocabulaire-là, que vous soyez
est-ce
en
que tu position peux juste... sauveur... Parce que c'est ouais. Vrai que là, ça fait quelques temps qu'on parle de sauveur. Pour plusieurs personnes, ça doit être clair, mais pour celles et ceux pour qui ça ne l'est peut-être pas, est-ce que tu peux expliquer ce triangle et les trois positions qui y sont liées ?
Ouais. Donc, Stephen Cartman nous dessine un triangle que très souvent, apparemment, ça ne lui fait pas bien plaisir. On appelle le triangle dramatique de Cartman. Donc, sur ce triangle, vous avez trois positions. La position du sauveur, effectivement, dont on a déjà parlé. La position victimaire. Donc on est bien d'accord, quand on parle de position de victime, on ne parle pas de position de victime au sens juridique ou pénal. Hein.
C'est une sensation, un ressenti de victime.
Je vais te détailler. Et la troisième position qui est la position du persécuteur. La position du sauveur, et donc, avant que je fasse le détail, et donc cette théorie, entre guillemets, de Cartman, c'est l'idée qu'on peut se retrouver très souvent, vous retrouvez très souvent, peut-être même quasi constamment, à jouer des jeux psychologiques, c'est-à-dire qu'on va utiliser ces trois archétypes pour obtenir des bénéfices secondaires, probablement des besoins qui ont été lésés quand on était enfant et que du coup on ne sait pas s'apporter soi-même. Et donc je vais transactionner mes relations à travers ces jeux de persécuteur, victime, sauveur. La position du sauveur, c'est une position, alors il faut préciser, vous avez une position de prédilection, vous utilisez les trois. Vous en avez une, a priori, un peu réflexe, un peu, voilà, dans laquelle vous sautez plus rapidement que dans les autres. Mais vous utilisez les trois. La position du sauveur, on se l'est dit en off au début, tu avais raison de le rappeler, il faut faire attention parce que c'est la position qui passe un peu le mieux socialement. Et donc, on pourrait être effectivement tenté de se dire que c'est un peu le gentil de l'affaire. Alors, je vous le dis en mille, il n'est pas plus gentil que les autres. C'est juste que ça passe mieux socialement, notamment dans une société plutôt judéo-chrétienne qui nous a transmis l'importance de l'altruisme, voire du sacrifice. Et effectivement, la position du sauveur est une position sacrificielle. C'est-à-dire, j'ai enregistré très inconsciemment, la plupart du temps, enfant, qu'il fallait que je rachète une faute. Les deux constructions de base du sauveur, c'est « je suis mauvaise, je suis coupable ». Et donc, partant de là, je vais passer mon temps à donner mon temps, mon argent, mon énergie, ma disponibilité, mon écoute, mon soutien, ma bienveillance, ma patience, etc. Bref, le syndrome messianique, je me sacrifie pour les autres parce que j'espère que ça me permettra de racheter cette faute inconnue au bataillon de mon enfance et que les autres me le rendront. C'est une manière, entre guillemets, stratégie comportementale de « j'ai appris à confondre être reconnu et être aimé ». Donc, je cherche à être reconnu, c'est le bénéfice principal de la position du sauveur. Et comme je cherche à être reconnu, je vais chercher à me rendre disponible constamment et je vais surtout chercher à me rendre indispensable. Ouais. Sauf que, à force de m'être rendu indispensable, c'est des positions qu'on retrouve dans beaucoup d'instabilité et dans beaucoup d'épuisement. Évidemment, on les retrouve souvent dans des situations d'épuisement, de burn-out, etc. Et on les retrouvera souvent dans des situations dites d'instabilité, changer souvent de métier, changer souvent d'entreprise, changer souvent de relation. C'est pas qu'ils sont instables, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ils endettent les systèmes dans lesquels ils se présentent, parce qu'à force de tout donner à tout le monde, ils n'obtiendront jamais, je vous le dis en mille, si vous vous reconnaissez en position du sauveur, vous n'obtiendrez jamais tout ce que vous donnez aux autres. Puisque par définition, comme vous le donnez beaucoup, vous ne le recevrez pas beaucoup, vous endettez le système, et quand le système est trop endetté, le sauveur n'a plus d'autre choix que de dire « eh ben, je m'en vais ». Ou « je cherche à ce qu'on me dégage de là », tout du moins, parce que ça devient intenable. Position de sauveur. La position victimaire, ça n'a rien à voir avec le fait que vous ayez pu être ou que vous soyez victime d'un point de vue légal ou pénal. Hein, on ne parle pas de ça. On parle, encore une fois, de la position que j'utilise quand je suis dans la plainte, quand je fuis mes responsabilités, quand je suis en passivité. La position victimaire, c'est la position qui lève les mains et qui dit « je sais pas, j'ai pas d'idée hein ». Les positions victimaires, vous les connaissez bien, surtout si vous êtes des positions de sauveur. Parce que forcément, si vous êtes en sauveur, vous avez beaucoup de victimes autour de vous qui disent pas grand-chose, en fait. Alors, soit elles parlent tout le temps, mais pour se plaindre, soit elles disent pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de bloqueurs de communication. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Bah oui, il faudrait que je change de boulot, mais je sais pas comment faire. Bah oui, je sais, je suis pas heureuse dans mon couple, mais je sais pas comment me sortir de là. Bon, c'est la position victimaire, elle est en passivité. La position victimaire, c'est une position qui a été endettée enfant. Et comme il y avait un gros moins dans la caisse, elle cherche à faire rentrer beaucoup de plus dans la comptabilité. Elle cherche de l'approbation. Elle cherche de la validation, elle cherche à ce qu'on s'occupe d'elle. Et en fait, là où le sauveur a appris à confondre reconnaissance et être aimé, la position victimaire, elle a appris à confondre se plaindre et obtenir de l'aide. Donc en fait, c'est une position qui ne sait pas demander de l'aide, ou en tout cas qui passe par des chemins de traverse, quoi. Ou, soit elle ne vous fait pas de demande, soit elle vous fait des demandes complètement excessives. Que le sauveur, bien entendu, armé de son fouet de la flagellation, va s'empresser d'aller faire jusqu'au jour où le sauveur va dire « j'en ai ras-le-bol, avec tout ce que je fais, on fait rien pour moi ». Voilà pour la position victimaire. Et puis, il nous reste la position du persécuteur. Alors, très souvent, vous entendrez effectivement la position du bourreau. Alors, techniquement, dans la littérature, c'est la position du persécuteur. La position du persécuteur, c'est la position qui a appris à confondre la puissance avec la violence. Donc lui, il va à grands coups de domination pour rabaisser l'autre. La plupart du temps, ce qu'il cherche, c'est la domination ou c'est le respect. Qu'est-ce que je peux vous dire sur la position du persécuteur? C'est la position que vous utilisez ou que les autres utilisent quand on est à la critique. Alors, chez les entrepreneurs, vous connaissez, c'est celui qui dit « attends, mais je t'ai massacré ton business plan, mais c'est pour toi. Hein. Moi, si je te mets un coup de pied au cul, c'est pour ton bien, c'est pour t'aider. » Typiquement, position de persécuteur. C'est-à-dire, lui, il a appris à confondre la puissance avec la violence. En fait, il a appris à confondre « je veux ton bien, donc je te critique, donc je te secoue ». Auquel t'as envie
avec
de dire...
très peu de bienveillance. Enfin, c'est... Parce qu'on peut aussi faire montrer des choses que la personne ne veut pas voir, mais dans une posture, on va dire, vraiment de bienveillance, d'amour, d'aide, et pas « bouche ton cul, secoue-toi » et voilà.
En fait, le mot-clé qu'il faut que vous reteniez sur le triangle de Cartman, c'est la question de la demande. En fait, ce sont trois positions qui... Alors, la position victimaire, elle n'en fait pas. Les positions de sauveur et de persécuteur, et je dis ça comme ça, les positions de sauveur détestent les persécuteurs au plus haut point, puisque c'est précisément la seule position qui ne t'apportera pas, sauveur, ce que tu cherches, puisqu'elle ne t'apportera pas de reconnaissance, c'est pour ça que tu les détestes. Mais vous êtes les mêmes, c'est deux positions de parents inadaptés qui sont juste sur deux extrêmes différents du continuum. Et en fait, ce sont deux positions qui anticipent les besoins et les demandes. En fait, au même titre que le sauveur qui impose son aide et à qui tu as envie de répondre, c'est pas t'as envie, à qui tu dois répondre, je te remercie pour ton aide, mais si j'ai besoin de quelque chose, je te le demanderai. C'est la même chose avec la position du persécuteur qui va anticiper les demandes et qui va dire « Non, mais si je critique ton business model, c'est pour ton bien. Je te remercie pour ta critique constructive, peut-être, bienveillante, peut-être. Mais si j'ai besoin de quelque chose, je te le demanderai. » Parce que là, je t'avais rien demandé. En fait. Donc voilà, ça c'était pour vous faire le grand topo du triangle de Cartman. Et donc pour en revenir à la question des limites, par définition, si vous jouez ces jeux psychologiques, c'est parce que les limites ne sont pas claires et que ce que nous on appellerait le territoire psychique, il n'est pas 100% fermé, il n'est pas 100% établi. Comme les limites ne sont pas 100% établies, on différencie mal le dedans et le dehors. On différencie mal mes demandes, mes besoins, tes émotions, etc., etc. Et donc, pour transactionner, pour obtenir ce que je veux, je vais jouer à la victime, je vais jouer au sauveur, je vais jouer au persécuteur. Donc en fait, les thématiques de fond, vous allez les retrouver dans les trois positions, puisque vous utilisez les trois. Après, ça prend un petit peu des formes différentes, on va dire ça comme ça. Et donc, pour revenir sur ta question, je dirais que petit 1, si vous vous retrouvez dans ces jeux psychologiques, quels qu'ils soient, il faut faire ce travail de fermeture du territoire psychique et d'imposer des limites, parce que effectivement, ça va vous enquiquiner la vie en tant que professionnel de l'accompagnement, parce que si vous êtes dans un jeu psychologique, ça veut dire que l'autre va y être aussi, et qu'en fait, cette peur d'être facilement manipulable, elle parle que votre territoire psychique, il n'est pas fermé. Et que donc, il ne vous protège pas. Parce qu'en fait, quand vous avez des limites solides et établies, il n'y a aucun problème à dire à un bénéficiaire, il est 10 heures, c'est la fin de séance. Et il n'est pas question qu'on déborde, en fait. Et ça n'a pas besoin de passer par le persécuteur qui a besoin de devenir violent pour se faire entendre. Les limites sont claires.
Ni par des excuses de « je suis désolée, j'ai un rendez-vous », un truc comme ça. C'est non, là, il est 10 heures, c'est fini, en fait. Et je n'apporte pas plus de valeur à notre séance à continuer pendant 20 minutes de plus parce que je me dis, je vais lui donner encore plus pour qu'il soit encore plus content et valorisé et se dire, ah oui, ça vaut le coup. Moi, j'entends souvent ça, de bah oui, ça dure toujours plus longtemps parce que comme ça, je me dis que la personne, elle s'est rentabilisée et elle va se dire, ah, il y a encore plus de valeur qui est apportée, etc.
Oui, je comprends ça. Hein. Je pense qu'on est beaucoup à passer par là. Ça peut parler des positions de sauveur qu'on retrouve souvent effectivement dans ces mécanismes-là, comme tu dis, de donner temps, hein, donner plus de temps, donner plus de valeur, donner plus, parce que encore une fois, il y a un schéma dessous de penser que si je donne plus, je vais être plus aimé. Je donne plus, donc je serai plus indispensable, donc je serai plus reconnu, donc je serai plus aimé. C'est la manière, la plupart du temps, dont c'est tricoté. Ce qui revient un peu à cette idée-là avec mon bénéficiaire, mon client, mon patient. Si je lui donne plus, il aura plus, donc il sera plus content et donc il sera plus satisfait de l'accompagnement. C'est pas nécessairement le cas, c'est même rarement le cas, parce qu'en fait, plus vous vous comportez en sauveur, plus vous les bloquez dans des positions victimaires qui vont dire... Je sais pas, j'ai pas d'idée, j'ai pas de solution, j'ai pas fait mes exercices interséances, blablabla. Mais c'est difficile de sortir de là parce que, évidemment, ce truc-là, qui consiste à dire plus je donne, plus je vais être aimé, vous l'avez appris très tôt. Et au-delà du fait de l'avoir appris très tôt, ça vous a probablement sauvé la vie dans votre système familial et dans votre enfance.
C'est pas là pour rien.
Voilà, donc il s'agit pas de dire oui, il faut arrêter d'être un sauveur. Ça, c'est très facile à dire et c'est pas facile à faire. Mais effectivement, ça vaut le coup d'aller travailler là-dessus. La manière qui vous conviendra le mieux pour essayer de le changer ce schéma. Mais déjà, si vous arrivez à prendre conscience que plus vous donnez, moins vous recevrez, parce que ça, c'est hyper contre-intuitif pour une position de sauveur qui doit être là à m'écouter en disant « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ? Genre, attends, ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans que je m'enquiquine à tout donner pour obtenir. Elle est en train de me dire que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Ça ne marchera pas parce que vous endetterez le système. Ça marchera quelques mois, quelques années, peut-être, au prix de votre épuisement et du non-respect de vos limites, de vos besoins, de vos émotions. Mais in fine, ça ne marchera pas.
Ouais. Et c'est intéressant, tu l'as un peu sous-entendu, mais de voir à quel point plus on est en mode sauveur, plus on va positionner l'autre en tant que victime. Et elle va prendre cette position, même si de base, elle n'arrivait pas avec peut-être un petit syndrome de la victime, mais pas grandiloquent. Et plus... on va jouer au sauveur, plus l'autre va se positionner en victime. On va limite la prendre et la foutre dans cette posture. Et ça crée un cercle vicieux dont il est très compliqué de se sortir quand on est empêtré dedans et qu'on a l'impression que ça fait partie de son identité.
Oui, parce qu'en fait, il y aura cette question d'endettement. Et donc, en fait, une fois que vous êtes parti dans une dynamique sauveur-victime, alors sauveur-victime, sauveur-persécuteur, victime-persécuteur, enfin, peu importe, chacun est 100% responsable. Hein. Donc dans la relation, c'est pas 50-50, comme on dit souvent. C'est pas 50-50, c'est 100% chacun. Le sauveur est 100% responsable de ce qu'il fait, la victime est 100% responsable d'aller dans sa position victimaire. Par contre, une fois que la dynamique elle est installée, encore plus pour les dynamiques sauveurs-victimes, parce que les sauveurs vont très vite endetter le système, et les victimes vont laisser le truc faire parce que c'est une position de passivité, donc ça laisse faire le truc, quoi.
Elle est facile.
Voilà. Il y a un moment, le système sera trop endetté. Et donc, ça va être très compliqué d'arriver à rééquilibrer le truc. C'est possible, hein. Mais bon, ça va être complexe. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les thérapies de couple, par exemple. Ça va être complexe parce que on va se faire payer la note, hein, à un moment donné.
Ouais. Et du coup, quand si on revient à une personne qui est, on va dire, accompagnant en posture de syndrome du sauveur, première étape pour sortir de ça, déjà en prendre conscience. Mmh. Voilà. Il faut déjà un minimum de courage, d'honnêteté envers soi-même, de se poser et d'accepter de potentiellement aller changer cette structure, se remettre en question et faire les choses différemment et prendre le risque d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça souvent que c'est vécu, prendre le risque de ne plus être aimé, de ne plus être valorisé, de ne plus exister. Et ce sera la sensation qu'on aura au départ. Du coup, ensuite, fixer des limites avec l'autre, quitte à prendre ce risque, comme dit, de ne plus être aimé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire, qu'on peut mettre en place ?
Oui, alors effectivement, c'est tout le travail de fond de la fermeture du territoire psychique. Ça veut dire prendre conscience, comme tu l'as dit. Ça veut dire comprendre effectivement comment ça s'est construit, ce truc-là, dans l'enfance. Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir ? Ça importe quoi, cette position de sauveur ? De la reconnaissance, c'est sûr et certain. Maintenant, reconnaissance chez moi, ça veut dire quoi ? Ça prend quelle forme ? Ça s'inscrit comment ? Je l'ai transactionné comment quand j'étais enfant ? Qu'est-ce que je cherche aujourd'hui, etc. Que vous le fassiez en thérapie, que vous le fassiez vous-même. Après, comme je dis souvent, analyser ses filtres à travers ses propres filtres.
On est bloqué à un moment donné.
Voilà, hein, c'est souvent limité quand même. Mais bon, fermeture du territoire psychique, sortir de ces jeux psychologiques. Première étape, ça veut dire bien comprendre ce triangle de Cartman si on veut bosser avec cet outil-là. Deuxième étape, ça veut dire savoir repérer des invitations aux jeux psychologiques parce que c'est pas si simple que ça. Exemple, je toque à ton bureau cet après-midi et j'ouvre la porte et puis toi tu me dis « Ah bon Dieu Laura, ça c'est pas le moment. » Qu'est-ce que tu m'envoies comme invitation au jeu psychologique là ? Là tu m'envoies pas du persécuteur, on va penser que c'est persécuteur parce que le ton est abrupt, mais c'est la position victimaire qui est en train de me parler. Parce que là, t'es en passivité. T'es pas en train de me dire « Non mais t'es sérieuse, là tu fais chier, sors de là. » Ça c'est du persécuteur effectivement, parce que là je cherche à
dominer. Je vais créer une culpabilité chez toi, c'est ça ?
Alors il peut y avoir effectivement les enjeux de culpabilisation, mais en fait là, dans cet exemple-là, quand tu dis « Oh non Laura, par pitié, me dérange pas », c'est la position victimaire qui parle. C'est « Oh, je n'ai pas de solution, Laura me dérange, je ne sais pas quoi faire ». C'est pas parce que le ton est abrupt que c'est le persécuteur qui parle. Ce n'est pas parce que le ton est condescendant que c'est le persécuteur qui parle. Le sauveur peut être très bien condescendant, hein, sans problème. Le sauveur peut très bien dire « Mais attends, pêche, mais moi si je dis ça, c'est pour ton bien. » C'est le sauveur qui parle, c'est-à-dire je suis en train d'anticiper tes besoins et tes demandes parce que je sais mieux que toi ce dont tu as besoin. C'est pas parce que mon ton est condescendant que c'est le persécuteur qui parle. Bref, donc déjà, d'une manière générale, il faut savoir repérer déjà les invitations que je peux recevoir au jeu psychologique ou que je peux lancer. Et c'est pas si simple que ça. Parce que c'est pas...
Surtout quand notre premier réflexe, ça va être de... j'entends ça, je vais pas me poser. Ah, attends, qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Sur quel ton ? Quel truc ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est mon identité de base qui va répondre.
Oui, c'est pour ça que, effectivement, c'est déjà un gros travail, repérer les invitations au jeu psychologique, de savoir déceler qu'est-ce qui relève du ton, qu'est-ce qui relève de la posture. Le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est si vous avez un doute, enfin, j'ai deux trucs à vous dire. Si vous avez un doute, c'est qu'il n'y a plus de doute. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, pas toujours, la plupart du temps, quand vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui est louche dans la transaction, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui est louche dans la transaction. Parce que quand vous avez deux adultes qui parlent, sans jeu psychologique, on ressort de la discussion, les choses sont claires, efficaces, posées. Si vous sortez d'un échange, que c'est pas clair, probablement c'est qu'il y a eu du jeu psychologique. Le deuxième truc que j'ai à dire, c'est si vous posez la question, revenez au bénéfice. Qu'est-ce que la personne cherche ? Si elle cherche plutôt de la reconnaissance, si elle veut se rendre indispensable, si elle veut se rendre irréprochable, c'est plutôt du sauveur. Si la personne cherche plutôt à dominer ou à se faire respecter, c'est plutôt le persécuteur. Si la personne cherche à ce que ça soit fait à sa place ou à s'en plaindre ou à se dédouaner, c'est plutôt de la position victimaire. Parenthèse. Donc, repérer les invitations au jeu psychologique, pour revenir à mon histoire, apprendre à formuler des réponses sur le triangle compassionnel qui est le versant positif pour démonter un jeu psychologique et ne pas rentrer ou pour en sortir si je me suis déjà fait embarquer dans le jeu psychologique. Identifier les constructions du monde, c'est-à-dire les croyances négatives à propos de soi-même, pour faire simple. Identifier les constructions du monde, flexibiliser les constructions du monde, faire le travail sur les limites, faire tout le travail de quels sont les besoins qui ont été lésés enfant et que je cherche à tout prix à obtenir, par exemple, par cette position du sauveur. Et c'est pas si simple, parce qu'effectivement, par définition, apprendre à se les apporter, quand t'as pas fait l'expérience enfant de ce que c'est que d'être reconnu, valorisé, que sais-je, il s'agit pas d'avoir un éclair de génie le matin en disant « Tiens, j'ai fait un tirage de tarot, il faut que je me reconnaisse moi-même. » Tu sais pas le faire, t'as pas appris, tu sais pas. C'est bien pour ça que c'est tout ce travail de fermeture du territoire psychique qui, petit à petit, va te permettre d'internaliser, par exemple, ce besoin de reconnaissance et qui, comme tu l'as très bien dit, forcément, va passer par un temps désagréable, douloureux même, où il va falloir, petit à petit, ça va pas se faire d'un coup, mais abandonner tous les bénéfices de la position du sauveur. Et il se passe un temps où je n'obtiens plus les bénéfices de la position du sauveur et je n'obtiens pas encore tous les bénéfices de la position d'adulte. Ah, et ce temps-là, effectivement, il n'est pas agréable du tout. Il peut être assez douloureux. Il a l'air assez interminable. C'est pour ça que c'est important là d'avoir des bons praticiens qui sont capables de vous accompagner et de vous étayer, comme on dirait en psycho, qu'il y a un étayage suffisant dans ces moments-là pour qu'on traverse ce moment-là qui, chez les sauveurs, la plupart du temps, va ressembler à la solitude, parce que c'est la grande angoisse, la position du sauveur, c'est les angoisses de solitude.
Oui, c'est du coup un grand travail à faire avant tout en soi, et ensuite accepter le déconfort, non, c'est pas ça, le mal-être, on va dire, de cette nouvelle position. Et le pire qu'on puisse ressentir, là, c'est des émotions, des sentiments désagréables. C'est tout ce qui va vous arriver en fin de compte. Et je crois que le jeu en vaut grandement la chandelle. D'être un adulte.
C'est effectivement pas un moment très agréable. Hein. Ça peut effectivement y avoir plein d'émotions désagréables. Ça peut se faire au prix de perte de relations. Hein. Généralement, chez les sauveurs, ça va souvent se passer comme ça. Parce que quand ils vont commencer à se rendre compte qu'ils ne veulent plus rentrer dans ces positions de sauveur, il y a... La plupart du temps, ce n'est pas la majorité des relations, mais c'est possible qu'autour de vous, il y ait des relations, des positions victimaires qui disent « Tu ne veux plus me sauver ?»« Wesh, c'est quoi cette affaire, là ?» Et qui, du coup, ne vont plus vouloir continuer la relation. C'est possible. C'est possible que ça se passe comme ça. Mmh. Et c'est bien ça qui va être tout l'enjeu pour les sauveurs. Ça va être de traverser ce moment-là où ils vont se confronter à ce qu'ils redoutaient le plus, c'est-à-dire « Putain, je le savais, je ne joue plus au sauveur et du coup, on m'abandonne. On ne me reconnaît plus. » Je ne suis plus indispensable, donc je ne suis plus reconnu, donc je ne suis plus aimé. C'est-à-dire, tout ce que vous avez appris à faire à un extrême du continuum, je me rends indispensable pour être reconnu, pour être aimé, vous allez vous bouffer l'autre côté du continuum, je ne me rends plus indispensable. Effectivement, c'est possible qu'il y ait autour de vous, du coup, des gens qui ne vont plus vous reconnaître et du coup, plus vous aimer. Mais, comme tu l'as dit, c'est que, in fine, je vais me débarrasser de personnes autour de moi qui peut-être reviendront au demeurant. Peut-être la relation redémarrera, mais elle redémarrera sur d'autres bases. C'est-à-dire, je veux toujours être en relation avec toi, mais je ne veux plus te sauver. Donc, soit tu viens dans une position d'adulte avec moi, et ça va être formidable, soit tu ne veux pas y venir, et c'est moi qui m'arrête.
Oui, et d'une certaine manière, limite, c'est un magnifique cadeau qu'on leur fera à eux aussi, de sortir d'une position peut-être de victime, ou de bourreau, ou de je ne sais pas quoi, qui, mine de rien, consciemment ou inconsciemment, leur fait pas du bien non plus. Donc en fait, c'est un cadeau qu'on fait à soi d'abord et peut-être même à l'autre aussi ensuite.
Oui, alors en tout cas, effectivement, pour les positions de sauveur qui nous écoutent, je ne vais pas trop insister sur c'est un cadeau pour l'autre parce que je ne veux pas nourrir votre position de sauveur.
Oui, du coup, c'est vrai.
Mais effectivement, vous le faites pour vous. La personne qui est en face s'en saisira ou pas. Sa responsabilité, son choix, vous ne pouvez rien y faire. Et c'est le pire, entre guillemets, qui puisse vous arriver dans ce travail-là. C'est d'être confronté peut-être à une relation ou deux où vous allez vous dire eh ben effectivement, la discussion en adulte n'est pas possible pour l'instant.
Ouais.
Peut-être jamais, peut-être pour un temps. Mais effectivement, peut-être vous allez faire face à des positions victimaires qui ne veulent pas quitter leur position victimaire parce qu'elles y trouvent trop de bénéfices, elles ne veulent pas la quitter. Mmh. Et effectivement, vous allez devoir dire eh bien, your choice.
Adios.
Ouais.
Génial. Merci Laura pour tout ça. On a beaucoup parlé là de psychologie, de structure, de jeu de ces postures. J'ai envie qu'on aille sur des sujets un peu plus légers, un peu plus personnels aussi peut-être pour la fin de notre épisode, qu'on parle un peu de toi. Tu nous as partagé au début ce que tu étais la plus fière de t'être offert, d'avoir osé dans ta vie. Est-ce que tu accepterais de nous partager quelque chose que tu as du mal à avouer, peut-être à t'avouer à toi-même ou avoir reconnu dans ta vie et que tu as appris à accepter malgré l'inconfort, malgré peut-être une certaine honte au départ d'être ça ou d'avoir fait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui...
Oui, hein, ça, des échecs et des trucs qui marchent moins bien chez moi ou quoi, il y en a plein, comme chez tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais te dire qui serait intéressant? Ta question, c'est un truc que j'aurais du mal à avouer.
Ouais, peut-être par rapport à ton entreprise, quelque chose qui s'est mal passé ou une croyance que tu as eue ou des choses que tu as faites dont tu n'es pas forcément super fière, mais qui t'ont appris quand même, mine de rien, beaucoup sur tant qui tu es, que l'entrepreneuriat, que les relations.
Oui, un truc effectivement que je pourrais dire, c'est que, puisqu'on a parlé de la position du sauveur, c'est que alors moi, c'était vraiment ma position de prédilection, c'est clair. Et du coup, comme toute bonne position de sauveur, ça m'a embarqué souvent, enfin je me suis plutôt embarqué souvent, petit 1 dans des bourbiers, notamment relationnels, et petit 2 à me faire des illusions sur mes illusions. Et donc ça m'est arrivé souvent, hein, de m'embarquer dans des schémas comme ça, de non mais si je donne beaucoup, eh ben forcément, ça va forcément s'arranger, ça va forcément marcher, ça va forcément tenir dans le temps. Et donc, j'ai eu grande tendance à m'illusionner avec ça, comme beaucoup de sauveurs d'ailleurs, mais à m'illusionner avec ça et à penser, j'allais dire bêtement, c'est pas bêtement parce que ça sort pas de nulle part, c'est que tu l'as appris quelque part, mais voilà, à me faire des illusions sur mes illusions.
Est-ce que tu as un exemple concret de ce que tu entends par là?
Ouais, par exemple dans une relation amoureuse récente où, enfin oui bon, pas ça pas deux mois, mais enfin bref, on s'en fiche. Ces dernières années où je me suis fait des illusions sur mes illusions, clairement, c'est-à-dire qu'en fait sortie de cette relation, franchement, je pouvais pas dire comme une position victimaire, le ciel m'est tombé sur la tête, je me suis rendu compte de rien. Non, la vérité c'est que tu voyais bien, t'as joué au sauveur. C'est tout. Parce que tu voulais être importante, parce que tu voulais le sauver, ce pauvre garçon, là. Et donc, je me suis fait des illusions, mais ça, c'est le propre d'être amoureuse, se faire des illusions, c'est normal. Là où c'est plus emmerdant, c'est que je me suis fait des illusions sur mes illusions. C'est-à-dire que j'étais illusionnée de l'amour, ben ça, c'est normal. Et par-dessus ça, je me suis fait des illusions de « mais si je lui donne tout, il sera forcément heureux. » Ah là là, ma pauvre petite Laura. Tu ne peux rien faire pour rendre les gens heureux. Ce n'est pas ta responsabilité.
Ouais.
Ce n'est pas ta responsabilité. C'est pas ta responsabilité. Oui, bah les deux.
Ouais, ouais, c'est hyper important. Là, je pense que ça ferait un bon résumé à tout ce qu'on s'est dit. C'est reprendre ses responsabilités et laisser les leurs aux autres.
N'est-ce pas?
Merde.
N'est-ce voilà. Pas Dieu que Laura a passé des années en thérapie à travailler là-dessus.
Ouais. C'était le chemin de Laura, voilà.
Et, oui.
Et est-ce que tu as une prise de conscience ces derniers mois, alors du coup peut-être dans un autre registre, qui t'a beaucoup apporté et qui te permet d'être là aujourd'hui encore, peut-être un peu plus toi, un peu plus heureux, structuré, épanoui dans ta vie ou dans ton business?
Ouais. Une prise de conscience qui a changé la donne ces derniers mois. Alors moi, prise de conscience, c'est un peu ma... Je pense que comme beaucoup de gens, tu sais, qui dans ces milieux-là, on travaille beaucoup sur nous, on est très réflexif, on se questionne beaucoup. Donc, je pense que des prises de conscience, on en a souvent. Celle que je choisirais dans les derniers mois, en vrai, je vais prendre celle-ci. Entre guillemets, c'est un peu con ce que je vais dire, au sens, c'est un peu une grande porte ouverte dans laquelle je vais mettre un grand coup de pied. Mais, des fois, c'est les trucs les plus simples, entre guillemets, les plus évidents qu'on a tendance à perdre de vue. Et quand j'ai fait mon traditionnel épisode des 3 leçons de l'année précédente, je l'ai mis, épisode de podcast, je l'ai mis dans cet épisode-là, c'est l'action est toujours ce qui donne des résultats. Alors, tu vas me dire, super, c'est un truc de base, de coaching, développement perso, blablabla. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que ces dernières années, on a eu aussi beaucoup le corollaire, il faut s'introspecter, il faut réfléchir sur soi, il faut se poser des questions. Et c'est bien sûr, c'est pas moi qui vais dire le contraire, c'est mon travail. Donc, bien entendu, je vais quand même prêcher pour ma paroisse. Évidemment, posez-vous des questions, réfléchissez. Oui, mais, ça m'a permis aussi de concevoir un peu mon métier autrement. C'est que je me suis dit, non mais en fait, moi, mon travail, c'est d'aménager des parenthèses de réflexion pour les bénéficiaires qui viennent à moi, parce que moi, je suis quand même dans des approches qui sont très réflexives. Hein. Généralement, tu repars pas de mes séances en mode cui-cui, c'est trop bien la vie. Généralement, tu repars de mes séances avec une barre là de « oh là là, il y a beaucoup de choses à réfléchir ». C'est le propre des approches un peu plus analytiques, entre guillemets, mais je ne fais pas du tout de psychanalyse. Hein. Bref, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que je voulais raconter avec mon affaire ? Donc, mon travail, en partie, c'est d'aménager des parenthèses dans la vie de ces personnes qui viennent jusqu'à moi et qui me font confiance pour réfléchir, avancer, mettre de la conscience sur ce qui se passe à leur insu. Mais c'est des parenthèses. Le reste du temps, ils doivent être ancrés dans le réel et ils doivent faire l'expérience du réel et l'expérience, en l'occurrence, de l'action. Alors, je suis toujours pas devenue une volontariste d'un point de vue philosophique, hein, parce que c'est toujours pas ma came, quand on veut, on peut, machin, c'est toujours pas ma came. Mais par contre, je deviens un peu hegelienne ces derniers mois et je me dis, l'expérience du réel d'abord, quoi. Tout n'est pas à mentaliser tout le temps, tout le temps. Et je suis très mal placée pour dire ça parce que je réfléchis à tout, tout le temps. Mais du coup, voilà, c'est un peu ma prise de conscience des derniers mois. C'est finalement, je n'ai jamais regretté mes passages à l'action, je n'ai jamais regretté mes prises de risque, les moments audacieux, etc. Il y a eu plein d'échecs, il y a eu plein de conneries, ça c'est sûr. Mais finalement, c'est toujours ce qui a fait avancer ou débloquer la situation dans un sens ou dans l'autre, quoi.
Ouais, et puis c'est ce qui nous permet aussi de mieux nous comprendre, mieux nous connaître, de grandir, oui. De ressentir des trucs, de vivre en fait. Et, ouais. et moi, je t'avoue que même si mon mental est bien au taquet, cette réflexion hegelienne me parle énormément et que moi, c'est oui, les grandes idées et le passage à l'action. Sinon, ça ne sert à rien. J'ai failli faire Sciences Po. Dieu merci, je ne l'ai pas fait. Je pense que j'aurais été très malheureuse. Dans cet univers où, oui, on pense beaucoup, oui, on parle beaucoup, mais on fait parfois très peu ou trop peu à mon goût, à moi, et que j'ai développé cette passion de l'entrepreneuriat, de l'accompagnement, de oui, on réfléchit, oui, on avance, oui, on va creuser intérieurement, et ensuite, on passe à l'action. Et on voit, ouais. Et l'idée, c'est juste d'oser, d'essayer. C'est là où on gagne en confiance en soi, c'est là où on gagne en fierté, c'est là où on apprend vraiment. Donc, oui. Allez-y, réfléchissez et ensuite osez appliquer.
Ouais, puis comme tu dis, c'est des itérations, quoi. C'est pas je réfléchis puis j'agis. C'est je réfléchis, j'agis, je re-réfléchis, ouais. Je me suis planté, puis voilà, il y a un truc qui va pas, puis je le refais. Enfin.
Complètement, trop bien. J'ai trois petites questions pour toi pour finir. Ouais. Si tu devais être encore un peu plus toi, un peu plus vrai, authentique, comme on dit, qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu dirais ? Peut-être est-ce qu'il y a encore des barrières que tu te mets dans ce que tu oses, justement, dans ton entreprise, dans ce que tu es en tant qu'humaine ?
Oh ouais, putain, t'as des questions de psychanalyse, toi. qu'est-ce que je
dis ? Tu m'as dit tes messages, je me suis dit, bah, j'ai Laura, je vais en profiter.
Eh oui, mais c'est parce que le cordonnier est plus mal chaussé. Moi, je suis rarement de l'autre côté de... des questions, mais c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je dirais ou qu'est-ce que je ferais pour être un peu plus moi ?
Ouais.
Sartrien comme réflexion, ça. Pas sartrienne pour un sou, moi. Qu'est-ce que je dirais, qu'est-ce que je ferais ? Je ferais... C'est une très bonne question. Elle va me tracasser tout le week-end, ta question. Hein. Ça, je vais en rêver, ça va m'angoisser. Qu'est-ce que je ferais ? Je ferais plus de la même chose, je crois. Je crois que... dans la nature des actions actuelles, on est bien. Mais j'intensifierai le signal sous certains trucs parce que en ce moment, je suis quand même assez fatiguée et donc du coup, bah je rame. Enfin, à mon niveau d'exigence qui est exorbitant, je rame un peu et donc je crois que je ferais bien de dormir, de me reposer, de prendre des vacances et après, parce que le repos, d'abord, l'action après, quand même, pour la santé. Et donc après, je pense que voilà, je ferai globalement la même chose, mais je le ferai plus, et je me censurerai moins des fois sur des choses où je me dis « Ouais, non, mais j'ai pas le temps, je ferai plus tard, bullshit. » T'as juste...
Okay. Et qu'est-ce que tu prends pas ce sommeil et ensuite ces actions ?
Alors là, c'est une question contextuelle, qu'il y a eu plein de trucs qui sont tombés en même temps dans l'agenda, la promo du bouquin, la septième promo de la formation sur la posture à remplir, une nouvelle formation qui sort. En vrai, il y a une question de calendrier qui fait qu'il y a eu beaucoup de choses. Et donc, en vrai, loin de moi, je vais pas faire un discours de « oui, je suis sous l'eau, je travaille 80 heures par semaine », c'est pas vrai. Hein. Je fais pas énormément d'heures, moi, par semaine. Je dois travailler 20 heures, 25 heures par semaine. Je fais pas des grosses semaines. Mais c'est bien là que je vois qu'il y a un truc qui va pas, c'est que je fais 25 heures de boulot effectif. Je ne sais pas où est passée ma semaine. Le temps m'échappe. Et ça, c'est signe que je rame et que du coup, en fait, là, il faut que j'aille me reposer. Donc, c'est pas pour tout de suite parce que je suis en déplacement à Paris la semaine prochaine, mais je vais prendre je sais plus, je crois que c'est autour du 8 mai, là, 8, 9, 10, 11, là,
oui, il y a 5 jours. On ne les connaît plus, mais en tout cas, ils ne sont pas...
C'est ça. Donc, effectivement, parce que généralement, je suis pas calée sur les jours fériés. En tant qu'entrepreneur, on s'en fiche un petit peu. Mais voilà, les copains qui m'ont dit « Ah, tu fais un truc pour le 8 ?» Oui, je vais dormir. Voilà. On se verra en juin, les copains. Mais moi, je vais me coucher.
La journée. Nickel. C'est ça. Trop bien. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a marqué ton aventure entrepreneuriale ?
Alors, plein. Plein, mais il faut que j'en choisisse une. S'il faut que j'en choisisse une, je vais choisir Sonia. Ouais. Le Rambourg, hein, qui doivent la connaître probablement de réseaux sociaux ou quoi, qui est un peu qui a été mon cerveau annexe, qui est devenu mon cerveau stratégique, qui est devenu le deuxième cerveau bien dans ta boîte et qui est devenu une amie avec les années. Donc ouais, Sonia, bien sûr.
Génial. Et si tu pouvais me recommander ou inviter trois femmes qui t'inspirent, trois entrepreneureux ou entrepreneuses à venir peut-être ici, partager les coulisses derrière la lumière, ce serait qui ?
Eh ben Sonia, déjà, puisqu'on vient d'en parler. Enfin, tu cherches des gens que tu peux vraiment inviter. Je ne vais pas chercher des
gens... Oui, c'est plus sympa que quelqu'un de décédé ou si tu me dis quand.
Oui, non, je n'avais pas cherché des CD, mais je veux dire, tu ne cherches pas des grandes stars, quoi. C'est ça que je voulais dire.
Non, mais par contre, connaître tes sources d'inspiration et qui tu apprécies, ça m'intéresse.
Écoute, je suis assez intriguée et estomaquée par ce que fait Louise Aubéry, anciennement My Better Self, parce que souvent je vois ce que passer de ses productions, de son travail, etc. Et je me dis, putain, 25 balais, waouh, la vache. Donc je dirais Louise. Je sens pas un truc hargneux, dominant, agressif, assertif, tu vois, et ça j'aime bien parce que ça me gave un peu ces modèles trop masculins, trop patriarcaux, là où il faut forcément faire démonstration de force, de domination et tout. J'ai découvert il y a quelques mois, je l'ai reçu sur le podcast récemment, Camille Test. Que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Politiser le bien-être. Évidemment, non, mais bien sûr, alors j'y ai pas pensé parce que c'est pas une femme, mais bien sûr, dans le milieu entrepreneurial, Thomas Burbidge, bien entendu, coup de cœur amical, hein, de professionnel.
Oui, humain, j'allais dire.
Ouais, humain, voilà, aussi. Humain, ouais, ouais. De 2023, Thomas, formidable, t'es un phare dans la nuit, mon frère, si tu nous écoutes. D'une manière plus générale, j'aime beaucoup Guillaume Meurice aussi, parce que du coup, ça m'y fait penser. Que je trouve formidable. Sama Karaki, incroyable, docteur en neurosciences, qui est une femme formidable, qui fait, à mon avis, un bien fou au milieu de la psychologie sociale et des neurosciences. Albert Moukébert aussi, enfin bon, je pourrais en citer plein, mais effectivement, plutôt du domaine de la recherche, etc. Richard Monvoisin, qui a été un de mes enseignants en zététique, en esprit critique, autodéfense intellectuelle. Tout ce champ-là qui viennent faire un peu l'éloge de la médiocrité, qui viennent contester le système ultra-néolibéral volontariste, quand on veut, on peut, Yaka Faucon et compagnie. Mm-hmm. C'est pour ça que dans le milieu entrepreneurial, c'est vrai que j'ai souvent...
Souvent, on trouve deux extrêmes, too much. C'est soit no pain, no gain, et j'y vais, et je donne tout, et si je veux, je peux... Ou bien loi de l'attraction, peace and love, et j'attends que la vie m'apporte ce que je mérite. Vas-y les gars.
De ouf.
C'est ni l'un ni l'autre, en fait. C'est un bel équilibre, une harmonie entre les deux de, oui, ne pas se tuer à la tâche. Et dans cette, effectivement, comme tu en parlais précédemment, culture judéo-chrétienne qui nous empêche de vivre, presque, ni je suis juste âme et cœur et amour, et puis la vie m'apporte. Il y a peut-être un peu.
Moi, ce que j'aime bien, c'est quand mais ça c'est une déformation familiale parce que je sais c'est de là d'où je viens, mais j'aime quand les thématiques qu'on aborde, pas tout le temps, pas 100% du temps, mais que les thématiques qu'on aborde elles soient politisées. Et donc mais quand je dis politisées, je vous parle pas nécessairement de politique politicienne, des députés, des élus, etc. Ça c'est encore un autre sujet. Je parle de politique avec un P majuscule, de la loi de la cité, de la vie de la cité, police. Et donc, quand j'entends dans le milieu entrepreneurial très souvent ce discours volontariste, qui est une vision très moderne du bonheur, qui est très américanisée, certes, mais pas que, que quand on veut, on peut, la méritocratie, blablabla, là, ça me tend parce que déjà, c'est des partis pris philosophiques avec lesquels je suis en désaccord, et parce que je trouve qu'il est grand temps que qu'on repolitise l'entrepreneuriat, parce que je pense que l'entrepreneuriat déjà a son rôle à jouer dans les enjeux politiques, avec un P majuscule d'une manière globale, qui se présentent à nous, qui sont déjà là à nous, et ensuite parce que c'est politique. Quand vous dites, quand on veut, on peut, no pain, no gain, etc., bien sûr que c'est politique, en fait. C'est pas juste un dicton à con qu'on a trouvé, citation Instagram qu'on a repartagé. Et donc, moi, je préfère échanger avec des entrepreneurs avec lesquels je suis peut-être foncièrement en désaccord, mais qui ont conscience de la portée politique de ce discours-là, avec lequel je suis pas d'accord du tout, et qui laissent beaucoup, 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 surtout dans les gens que toi et moi on accompagne, beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses sur le côté, avec des niveaux de culpabilité monstrueux, parce qu'on leur explique que quand on veut, on peut, et que si t'as envie d'être Steve Jobs, tu deviens Steve Jobs, alors que bullshit. Alors vraiment bullshit, quoi. C'est juste faux. C'est juste sociologiquement faux. Et que du coup, tu te retrouves avec, souvent des femmes d'ailleurs, avec cette culpabilité énorme de dire « je comprends pas, j'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» Et t'as envie de leur dire « ah là là, ma bichette est pas 100% ta faute. »
La culture est oui, beaucoup. Ouais, ouais. C'est reprendre sa responsabilité sans se dire que je suis responsable et dans la culpabilité de tout. Trop bien. Bon, enfin trop bien. Je ne sais pas ce dont on a parlé, mais extrêmement intéressant, évidemment. Merci infiniment, Laura. Pour toutes celles et ceux qui veulent aller encore plus loin et découvrir ta pensée, je vous invite à découvrir le bouquin de Laura, sorti en février du coup, « Transforme ta vie d'entrepreneur » aux éditions Vuibert, un très très chouette bouquin. Donc, je vous le conseille. Et puis évidemment, tu as tes réseaux. On te retrouve où ? Sur Instagram ? Sur ta newsletter.
Ouais, alors, bien dans ta boîte partout, donc ça c'est facile. Le site, le podcast, Instagram, tout s'appelle bien dans ta boîte.
Génial. Merci infiniment, Laura, pour cette belle discussion. Très heureuse de te retrouver et de partager ce moment. À bientôt.
Oui, merci à toi de m'avoir reçu et de nous avoir écoutés. Merci beaucoup.
Et voilà pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous a plu, inspiré et questionné. Si c'est le cas, pensez à le partager autour de vous. Sur Instagram, par email, par WhatsApp ou tout ce que vous voulez. C'est à la fois la meilleure manière de soutenir mon travail et en même temps d'aider celles et ceux qui pourraient aussi être inspirés par le podcast. Et d'ailleurs, une autre très belle manière de permettre à d'autres personnes de découvrir le podcast et de soutenir tout ça, c'est de laisser une note et un commentaire sur votre application de podcast. Ça vous prend 2 secondes et demie et ça a un impact vraiment immense au niveau des algorithmes et de la visibilité du podcast. Donc merci d'avance de prendre ce temps-là. En attendant le prochain épisode, si vous avez envie d'autres conseils et réflexions pour avancer, je vous invite à me retrouver sur Instagram et LinkedIn, dont vous avez les liens juste en dessous dans les notes de l'épisode, ainsi que toutes les ressources que l'on a abordées dans cet échange. J'ai hâte de vous y retrouver, et en attendant, prenez soin de vous, et surtout, autorisez-vous.